Les prix à la consommation repartent à la hausse ce mois-ci, plus 1,1% après moins 0,5% en mars, sous l'impulsion des prix de l'énergie, des produits manufacturés et des services. Le rassemblement réunissait hier son comité directeur. Le parti, présidé par Alcide Ponga, annonce une volonté de construire l'union la plus large possible du camp non-indépendantiste en vue des élections provinciales. Naïma Moutchou, auditionnée la nuit dernière pour nous par la commission des lois du Sénat, la ministre des Outre-mer a défendu la loi organique visant à ouvrir le corps électoral provincial aux natifs et aux conjoints. La crise de l'antivirus en métropole, les 22 cas contacts identifiés en France sont désormais tous hospitalisés, mais aucun ne présente de symptômes. Nouvelle rassurante selon Matignon. Le sport avec du football, nous reviendrons sur le sacre du Paris Saint-Germain et c'est demain que Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs convoqués à la prochaine Coupe du Monde. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Vous l'avez sûrement remarqué, les prix à la consommation ont augmenté en avril selon le dernier indice publié par l'ISEE, plus 1,1%, alors qu'en mars, ces mêmes prix avaient baissé de 0,5%, Jean-François Baudin.
L'ISEE explique que cette nouvelle hausse est due en grande partie à la forte augmentation des prix de l'énergie qui ont progressé de plus 7,6% le mois dernier, notamment évidemment les carburants. 15,7% d'augmentation pour l'essence et 18,8% pour le gazole dans un contexte de tensions persistantes sur les marchés internationaux. Mais ce n'est pas tout. L'ISEE souligne aussi d'autres augmentations, celles des produits manufacturés, plus 1,1% et des services, plus 0,3%. On signalera tout de même que les prix de l'alimentation, eux, se sont stabilisés au mois d'avril. Et malgré une hausse de l'indice général le mois dernier, sur un an, les prix à la consommation ont baissé de 0,2%.
Le rassemblement dit oui à l'union. C'est la décision prise hier soir par le comité directeur élargi du parti. Il choisit l'union avec les loyalistes pour les élections provinciales du 28 juin, Elisabeth Noir.
On se souvient des remous qu'avait suscité un récent communiqué d'Alcide Ponga dans lequel le rassemblement s'interrogeait sur la tête de liste dans la province sud. Le rassemblement se livre aujourd'hui à une clarification au lendemain de la réunion de son comité directeur élargi qui a défini sa stratégie pour les élections provinciales. Selon son communiqué, une volonté majoritaire s'est dégagée pour construire une union la plus large possible du camp non-indépendantiste, une union indispensable pour s'opposer à toute forme d'indépendance et pour répondre aux défis politiques, institutionnels et économiques du territoire. Une décision que nous a confirmée le président du rassemblement, Alcide Ponga.
Le bureau s'était réuni il y a quelques semaines de cela. J'avais d'ailleurs fait un communiqué qui allait dans ce sens-là. Ce communiqué avait beaucoup, beaucoup fait parler, avait beaucoup fait couler d'encre aussi. Et donc, avec le bureau, on s'est retourné vers une instance du parti, qui est le comité directeur élargi, à qui nous avons exposé les choix et les hypothèses possibles pour les prochaines provinciales. Donc, il y a eu une réunion de quasiment 2 heures. Et à la fin, un vote dans lequel le comité directeur a décidé que le parti devait se donner les moyens de travailler une union avec les amis loyalistes et de façon la plus large possible, les partenaires non-indépendantistes, pour les prochaines provinciales.
Dans ce communiqué, le rassemblement précise aussi que l'union devra toutefois reposer sur des bases claires, équilibrées et respectueuses des forces en présence, ainsi que des valeurs portées par chacun. Elle devra fédérer le plus largement possible les Calédoniens partisans de la France. En clair, le rassemblement veut faire entendre ses spécificités.
Pour le rassemblement, et ça a été un message du comité directeur hier aussi, ça doit être une union qui respecte les forces vives et la représentation de chaque parti. Et également, ce qui nous a peut-être aussi été reproché, mais peut-être à moi de façon personnelle, que le rassemblement puisse s'exprimer le plus souvent et exprimer son identité propre dans cette union. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles je me suis engagé aussi hier au comité directeur, que certes, union il y a, mais le rassemblement doit percevoir sa spécificité à l'intérieur de cette union.
Et dans cet esprit, le rassemblement considère que cette démarche d'union doit garantir une représentation juste et fidèle de ses électeurs à hauteur d'un tiers, conformément au poids politique et électoral qu'il représente au sein du camp non indépendantiste. Des réunions doivent avoir lieu dans les prochaines heures avec les loyalistes pour affiner cette union. Les loyalistes qui réunissent quant à eux un séminaire ce dimanche à Païta.
Et c'est lundi le 18 mai que le projet de loi organique modifiant le corps électoral pour y intégrer les natifs et les conjoints sera soumis pour avis aux élus du Congrès avant d'être examiné par le Sénat puis l'Assemblée nationale. Hier soir pour nous, la commission des lois du Sénat auditionnait la ministre des Outre-mer sur le texte et ça coince sur l'intégration des conjoints.
Des conjoints qui, selon les premières estimations, seraient entre 1500 et 1800. Il faut dire que le texte sur lequel vont travailler les parlementaires est la proposition de loi déposée par le sénateur naturel et elle porte uniquement sur l'intégration des natifs. Le sénateur calédonien ne mentionne pas les conjoints. Il pense même qu'il est impossible de les intégrer dans le corps électoral provincial. Conformément aux engagements du Premier ministre, c'est donc le gouvernement qui va ajouter un amendement pour permettre l'intégration des conjoints. C'est ce que la ministre des Outre-mer a précisé face à la commission des lois du Sénat.
La proposition de loi organique étant d'initiative parlementaire, elle ne comporte pas dans sa rédaction initiale de dispositions relatives aux conjoints de citoyens calédoniens. Or, le gouvernement considère qu'il existe également une situation d'incompréhension pour ces conjoints intégrés à la société calédonienne. Là encore, il s'agira d'un aménagement correspondant à ce que le Conseil d'État a pu qualifier de changement de circonstances de droit et de fait induit par l'évolution de la situation démographique. Conformément aux engagements pris par le Premier ministre, le gouvernement déposera donc un amendement afin de permettre leur intégration. Ce sera une intégration à leur demande, intégration donc des conjoints de citoyens calédoniens dans le corps électoral provincial. Là encore, une approche proportionnée, respectueuse des équilibres issus des accords.
Trois sénateurs seulement sont intervenus dans le débat, un centriste, une écologiste et le socialiste Patrick Kanner. Tous ont émis des réserves sur la modification des règles électorales à un mois seulement d'une consultation et ils ont exprimé des doutes sur l'intégration des conjoints. Pour le sénateur socialiste du Nord, Patrick Kanner, l'amendement concernant l'inscription des conjoints est même un véritable chiffon rouge.
Il y a un chiffon rouge, c'est les conjoints. Donc s'il y avait un amendement du gouvernement pour ouvrir le corps électoral aux conjoints, nous nous opposerions. Et j'ai bien le sentiment que ce n'est pas qu'une position des groupes de gauche. Et par rapport aux négociateurs actuels et à venir, n'agitons pas inutilement des éléments de conflictualisation qui ne feraient pas avancer le dossier qui est pour nous essentiel, à savoir la tenue dans de bonnes conditions des élections du 28 juin prochain.
Des réserves auxquelles a répondu la ministre des Outre-mer, les conjoints ce sont les mariés et les pacsés, et la question est celle de la durée de mariage.
La question est toujours en discussion aujourd'hui. Elle est autour de 5 ans, c'était ce qu'avait écrit au sein même de l'accord, les parties prenantes à Bougival. Pour vous donner des chiffres plus précis, puisqu'évidemment nous avons procédé à des projections, nous avons demandé au Haut Commissariat de pouvoir nous donner des chiffres. C'est entre 1500 et 1800 personnes aujourd'hui concernées. Sur une résidence de 5 ans, ça donne 1500 à 1800 conjoints. Alors non inscrits d'office, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ce serait une inscription volontaire, ce qui représente 1% de la liste, puisque la liste est d'un peu plus de 180 000 inscrits, 1% du corps électoral.
Les conjoints seraient donc entre 1500 et 1800, soit 1% de la liste électorale. De leur côté, les natifs représentent, on le sait, quelque 10 569 personnes. La proposition de loi qui ne concerne donc que les natifs va être soumise pour avis lundi après-midi aux élus du Congrès. Dans la foulée, la commission des lois du Sénat examinera le texte avec l'amendement du gouvernement sur les conjoints. Ce sera lundi matin à Paris. Lundi après-midi, le texte sera examiné en séance publique par le Sénat et dès le mercredi 20 mai, il devrait être examiné en séance publique par l'Assemblée nationale.
Le PALICA est quant à lui favorable à l'inscription des natifs, mais il réserve sa position sur l'inscription des conjoints.
Le PALICA avait réuni un congrès extraordinaire les 8 et 9 mai à Vaud, mais depuis, il est resté très discret en dehors de la publication d'un long communiqué publié il y a 2 jours, dans lequel il rappelle que pour lui, la question du corps électoral doit être traitée dans le cadre d'un accord politique global. Il se déclare cependant favorable à ce que la proposition d'ouverture, notamment aux natifs, soit soumise au débat, mais il n'évoque pas le cas des conjoints. Et pour cause, souligne Judy Kael-Séléphen, l'un des porte-parole du PALICA, le texte qui sera transmis au Congrès et qui a été proposé par Georges Naturel ne comprend pas les conjoints. Quant à l'inscription des natifs, il s'agit, dit-il, d'une régularisation.
Il s'agit là de régulariser une situation où nous avons des citoyens calédoniens qui se sont prononcés pour les consultations, mais par leur inscription automatique sur cette liste de consultations, ne sont pas inscrits sur la liste provinciale. Or, pour ces échéances provinciales-là, il convient de régulariser ces situations où on a demandé à des citoyens de se prononcer sur l'avenir et aujourd'hui, ils ne pourraient pas se prononcer sur l'organisation institutionnelle interne de la Nouvelle-Calédonie. Et c'était pour nous une irrégularité et une incohérence politique. Donc, il faut faire cette ajustement. Justement, cette régularisation concernant les natifs. Ça, c'est ce qu'on va examiner sous le projet de loi au Congrès dans le courant de la semaine prochaine. Dans le texte qui est proposé, ne figurent pas les conjoints. Donc, les élus de la Nouvelle-Calédonie seront amenés à examiner un texte où ne figurent pas les conjoints. Donc, les conjoints seront certainement introduits par la suite. Mais nous, sur le principe, le Congrès a dit il reviendra aux assemblées parlementaires en France de prendre la décision de le faire.
Je dis qu'elle Saléphane qui confirme par ailleurs que le PALICA ira aux élections provinciales sous la bannière unie.
Lors du dernier congrès que le PALICA a tenu à Boreil en fin d'année dernière, on a décidé de s'engager dans les municipales et dans le cadre des provinciales sous la bannière unie en appréciant les spécificités locales dans les îles et notamment dans le sud. Donc pour l'heure, le PALICA s'engagera dans les provinciales sous la bannière unie comme il l'a énoncé lors de son congrès. Aucune union avec la mouvance indépendantiste pour le moment.
Je dis qu'elle Saléphane, l'un des porte-parole du PALICA, au micro de Kalinda Boicou.
C'est Philippe Dunoyer qui sera demain midi votre invité, Elisabeth Noir, dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur le nouveau mouvement politique et qu'il vient de lancer et qui est intitulé « Nous ». Quel est le positionnement de ce mouvement? Quels sont ses adhérents? Quelle est sa position sur l'ouverture du corps électoral et plus largement sur l'actualité politique calédonienne? Philippe Dunoyer est invité de Transparence. C'est à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Autre rendez-vous d'antenne, l'UNC propose une nouvelle formation en ethnomédecine et en ethnobotanique. Nous en parlerons demain à 7h30 avec deux invités du matin. Il s'agit d'Edouard Nawia, professeur des universités en chimie et responsable pédagogique de la formation, et de François Chassagne, docteur en chimie et chargé de recherche à l'IRD. Ils nous parleront de cette nouvelle formation pour laquelle les candidatures sont ouvertes jusqu'au 21 mai. C'est aujourd'hui un jour férié pour la fête de l'Ascension. Les catholiques commémorent aujourd'hui la montée au ciel du Christ 40 jours après sa résurrection. Des célébrations étaient organisées dans les paroisses du territoire. À Nouméa, les fidèles étaient nombreux en la cathédrale de Nouméa.
Jésus qui monte au ciel, on nous prépare une place pour chacun de nous. Et puis un jour, nous allons le rejoindre. On est fait pour le ciel. Nous ne sommes que des passages.
On a fêté Pâques il n'y a pas longtemps. Comme le Père dit, s'il n'y a pas la résurrection, il n'y a pas l'ascension. Donc c'est une grande joie. Jésus monte au ciel pour nous envoyer le défenseur, qui est l'Esprit Saint. Donc après cette fête de l'Ascension, on se prépare pour accueillir l'Esprit Saint.
Le Seigneur, il monte au ciel et puis dimanche prochain, à la Pentecôte, il nous envoie l'Esprit Saint. À chacun et à chacune de nous. Nos parents, nos enfants, surtout les enfants, parce qu'ils ont besoin de l'Esprit Saint.
La fête de l'Ascension, c'est quand Jésus monte au ciel. Nous, on faisait la neuvaine pour qu'au jour d'aujourd'hui, nous, on pense à nos défunts, à tous les âmes du purgatoire, pour qu'ils intercèdent pour eux, qu'ils montent avec lui au ciel, dans sa lumière éternelle.
La messe de l'Ascension a été présidée par le vicaire général, le père Roch Apikawa, à la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa. Il est 17h59, première pause, avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Pour la fête des mères, faites fondre son cœur avec Maison Thirier. Découvrez notre rose glacée à 3490 francs au lieu de 3990 francs. Sorbet fraise framboise, crème glacée vanille bourbon et meringue croquante, un moment magique, édition limitée. Offre valable jusqu'au 31 mai dans la limite des stocks dans vos magasins Thirier et stations mobiles partenaires. Maison Thirier, seul le bon crée du bonheur.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Info soir, Léana Colombo.
L'antivirus, toujours au cœur des préoccupations en métropole. Les 22 cas contacts identifiés en France sont désormais tous hospitalisés, comme l'exigeait le gouvernement. Les résultats des tests sont rassurants. Ils ne présentent aucun symptôme, selon Matignon. De quoi rassurer les Français. Le gouvernement qui continue de communiquer quotidiennement sur le sujet. On apprend que la passagère française contaminée du MV Ondus se trouve toujours à l'hôpital Bichat en réanimation, tout comme cette autre personne infectée à travers le monde. Aucun traitement ni vaccin ne s'offre à eux. Mais alors, comment sont-ils pris en charge ? Élément de réponse avec Yasmina Katou pour Europe 1.
Eh bien, il s'agit surtout de soulager les symptômes qui ressemblent au départ à ceux d'une grippe, donc du paracétamol pour la fièvre et les courbatures, du repos. Des corticoïdes peuvent être administrés pour diminuer l'inflammation provoquée par le virus dans le corps. Si les fonctions cardiaques sont atteintes, des médicaments pour assurer le bon fonctionnement du cœur et une bonne pression artérielle sont délivrés. Et si l'état du patient se dégrade et que les poumons sont gravement atteints, une assistance respiratoire est nécessaire. Plusieurs options sont possibles, décrit le professeur Bruno Mégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris.
Dans les formes mineures, une simple oxygénothérapie par un petit masque est suffisant. Lorsque la forme est un peu plus grave, il faut procéder à une intubation. Et dans une forme encore plus grave, on va procéder à la mise en place de ce que l'on appelle une ECMO veno-veineuse ou un poumon artificiel.
Cette machine extrait le sang du système veineux à l'extérieur du corps pour l'oxygéner et éliminer le gaz carbonique. Puis le sang est réinjecté dans le corps. La guérison intervient enfin quand le système immunitaire parvient à éliminer le virus de lui-même.
Et l'une des craintes des scientifiques, c'est que la souche de l'antivirus détectée à bord du navire foyer de la maladie est mutée pour devenir beaucoup plus transmissible. Hypothèse écartée à ce stade par l'Agence sanitaire de l'Union européenne après des investigations préliminaires basées sur le séquençage du génome complet. Et c'est dans ce contexte que les autorités n'ont voulu prendre aucun risque à Bordeaux où près de 1700 passagers ont été confinés hier à bord d'un paquebot de croisière. Au final, il n'y a aucun lien avec l'antivirus, mais 80 personnes victimes d'une gastro-entérite depuis lundi. Précision à Bordeaux du correspondant d'Europe 1, Stéphane Place.
Sans grande surprise, les analyses réalisées viennent confirmer qu'il s'agit bien d'un épisode de gastro-entérite d'origine virale, un norovirus avec une transmission qui s'effectue d'individu à individu ou par l'environnement. Dans ce paquebot faisant escale en Gironde et qui transporte un peu plus de 1700 personnes en tout, équipage compris, les autorités soulignent qu'à ce stade d'ailleurs aucun cas grave n'a été signalé. La préfecture de la Gironde indique dans son communiqué commun avec l'Agence régionale de santé que les consignes d'isolement des malades sont maintenues, assorties d'un renforcement des gestes barrières. Sans oublier les règles d'hygiène à bord de l'imposant navire à quai, nettoyage renforcé des surfaces. Et puis l'équipe médicale du bateau de croisière prend bien sûr en charge les passagers souffrants. Mais, et c'est le point important, les autorités lèvent l'interdiction de débarquement pour les croisiéristes non symptomatiques. On leur rappelle juste qu'il faut régulièrement se laver les mains. Bordeaux, Stéphane Place, Europe.
Et notez qu'un homme de 92 ans avait perdu la vie à bord de ce même bateau en début de semaine, victime, lui, d'un arrêt cardiaque, selon les autorités. Les chiffres du chômage en métropole repartent à la hausse et pas qu'un peu. Le taux de chômage a dépassé hier le seuil symbolique des 8% au premier trimestre. 8,1% exactement, son plus haut niveau sur les 5 dernières années. Alors que l'emploi était l'un des marqueurs positifs du bilan d'Emmanuel Macron, il est en train de s'effacer. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Contrairement à François Hollande, Emmanuel Macron avait lui réussi à inverser la courbe du chômage jusqu'en 2024.
On n'avait jamais, à un tel rythme, baissé notre chômage. On est passé de 9,6% à 7,4%. Pour la première fois depuis 40 ans, si nous continuons cet effort, on peut aller vers le plein emploi.
Un objectif de plein emploi devenu aujourd'hui inatteignable, la faute à une croissance trop faible et aux crises internationales, selon le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou. Mais l'argument est perçu par les oppositions comme un prétexte. Le maire de Cannes, David Lisnard, y voit plutôt la conséquence d'un excès de charges et de fiscalité sur les entreprises. Quand la députée RN Julie Lechanteux estime qu'Emmanuel Macron s'apprête à laisser une France paupérisée et précarisée, même le Bloc central ne cache pas son malaise. Un député Renaissance regrette ainsi l'effet dévastateur de la dissolution qui aura conduit, selon lui, à 300 d'immobilisme. Politiquement, ce qui était l'un des totems d'Emmanuel Macron, à savoir la baisse du taux de chômage, pourrait désormais prendre la forme d'une demi-réussite, voire d'un échec du chef de l'État. Et ce, même si le nombre de personnes inscrites à France Travail reste bien inférieur à son niveau de 2017.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Un mot d'actualité judiciaire, elles étaient attendues, les réquisitions au procès en appel de l'affaire libyenne. 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende, c'est la peine requise à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Les mêmes réquisitions qu'en première instance, mais rien n'est joué. La cour d'appel doit rendre son arrêt le 30 novembre. Le procès, lui, s'achèvera dans 2 semaines après les plaidoiries des avocats de l'ancien président de la République. À l'étranger, la Chine et les États-Unis devraient être des partenaires et pas des rivaux. Voilà ce que déclare aujourd'hui le président chinois Xi Jinping, qui déroule actuellement le tapis rouge à Donald Trump. Le président américain qualifie pour sa part sa rencontre avec son homologue chinois d'honneur comme il en a peu connu. Des entretiens à huis clos, mais avant que les portes du palais du peuple ne se referment sur les deux dirigeants, Xi Jinping a exprimé ses ambitions communes avec les États-Unis quant à l'avenir.
Je me réjouis à l'idée d'échanger avec vous sur les grands enjeux qui concernent nos deux pays et le monde entier, afin que 2026 soit une année historique et marquante, qui s'appuie sur le passé et ouvre de nouvelles perspectives pour nos relations.
La Chine et les États-Unis qui aborderont évidemment la question de la guerre au Moyen-Orient, alors que la France compte prendre une initiative aux Nations Unies afin de proposer un cadre à son projet de réouverture sécurisée du détroit d'Ormuz dans une mission totalement neutre et pacifique, a dit Emmanuel Macron. Il est 18h passé de 6 minutes, seconde pause, avant de voir tout le sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Besoin d'un bol d'air pur ? Le samedi 23 mai, le parc provincial des Grandes Fougères vous invite à sa grande fête de la nature. En famille, explorez les mystères des orchidées et des champignons ou évadez-vous lors d'une séance de yoga au cœur de l'arboretum. Tentez une randonnée, optez pour un jeu de piste, découvrez les artisans du coin et appréciez le ciel étoilé durant la nocturne. Le meilleur dans tout ça ? L'entrée du parc est 100% gratuite. Plus d'infos sur la page Facebook du parc provincial des Grandes Fougères. La province sud, agir pour l'avenir.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
C'est un événement festif qui rassemble la 9e édition du Festival international burlesque Nouméa qui se déroulera demain et samedi au Centre culturel du Mont d'Or. Un rendez-vous artistique proposé par Karine Richer-Raguin. Comme à son habitude, le festival accueille 3 artistes internationaux et la troupe burlesque de Nouméa avec comme maître de cérémonie Laura NC. Les précisions de Karine Richer-Raguin.
J'ai choisi des invités que j'ai rencontrés justement à Las Vegas parce qu'on a eu cette chance avec la troupe d'aller 2 fois performer à Las Vegas pour le Burlesque Hall of Fame. Donc l'un d'eux s'appelle Chris O. C'est un Néo-Zélandais qui habite en Suisse et qui a fait partie de Incroyable Talent en France, qui a été d'ailleurs sélectionné, qui n'a pas gagné, mais qui a fait plusieurs étapes et qui arrive, il est entre le burlesque et le drag, il danse sur pointe, il a des costumes incroyables, il est magnifique et il a gagné plusieurs prix. La deuxième, c'est Inga, elle arrive de Seattle et l'année où on était effectivement encore à Las Vegas, c'est elle qui a gagné la couronne, qui a eu le premier prix. Elle a un solo hors du commun puisque ce sont des solos et c'est pour ça que je l'ai choisi, que je l'ai fait venir. Et le troisième qui nous arrive de Brisbane, Trigger Happy, lui il est venu il y a 2 ans et il a tellement fait le buzz, il a tellement plu au public, il nous a tellement fait rire que j'ai dit je ne peux pas ne pas l'avoir. Il a un physique complètement atypique pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir. Et Trigger Happy, bah, il va vous rendre happy, quoi. Il va vous rendre heureux.
Victime de son succès, la représentation de demain soir affiche déjà complet. Par contre, il reste quelques places pour celle de samedi à 19h au Centre culturel du Mont d'Or. Les réservations se font sur le site internet ticket.nc. On passe au sport, à la une de l'actualité sportive du football, avec le nouveau sacre du Paris Saint-Germain en Ligue 1, le 14e de l'histoire du club et le 5e consécutif, Jean-François Baudin.
Le PSG a souffert sur la pelouse du RC Lens, mais il a fini par s'imposer, victoire 2-0, qui permet aux Parisiens d'ajouter un nouveau trophée dans l'armoire déjà bien remplie du club de la capitale. Le PSG est le club le plus titré en Ligue 1, avec 14 titres, devant Saint-Etienne, champion à 10 reprises, et Marseille 9 fois sacré. Le coach du PSG, Luis Enrique, remporte lui son 3e titre en Ligue 1, mais c'est, dit-il, le plus difficile à obtenir.
Lens a bien fait le boulot et ça a été très difficile, le plus difficile des trois qu'on a gagné ici. Ce n'est pas facile jouer ce type de match. Vraiment, c'était un match de Champions League parce que Lens et nous, on va jouer la prochaine Champions League. Et je pense qu'on a profité de l'ambiance, ça a été compliqué. Je pense qu'ils méritent de plus, ils ont créé beaucoup de chances. Mais je pense qu'on a pu voir un match de très haut niveau de football et c'est le plus important.
Grâce à cette victoire sur Lens, le PSG est donc sacré champion de France. Lens, de son côté, est assuré de terminer 2e. Et derrière, tout se jouera lors de la dernière journée qui aura lieu ce week-end. 3 clubs sont à la lutte pour la 3e place, Lille, Lyon et Rennes. Marseille et Monaco sont également dans la course aux places européennes. On retiendra aussi que ce matin, toujours dans un match en retard, Strasbourg est allé battre Brest 2-1. Les deux clubs sont assurés de terminer dans le ventre mou de la Ligue 1, c'est-à-dire qu'ils ne seront ni qualifiés pour les places européennes et ils ne risquent pas non plus de redescendre en Ligue 2.
Et puis c'est demain matin pour nous, à 5h, que Didier Deschamps dévoilera la liste de 26 joueurs convoqués pour la Coupe du Monde 2026. Elle aura lieu, je vous le rappelle, au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le premier match pour l'équipe de France sera le 16 juin contre le Sénégal. Le sport sur le territoire avec du cyclisme et un rendez-vous attendu par l'ensemble des cyclistes calédoniens. Je parle du Grand Prix Roger Larocque.
Oui, un critérium organisé depuis plus de 50 ans maintenant et qui attire toujours autant de coureurs, des plus jeunes de l'école de cyclisme aux plus expérimentés. Écoutez, Renato Portera, c'est le président du VCC Mondor.
Les plus jeunes auront 30 minutes plus 5 tours à faire et l'élite, ils auront 1 heure plus 5 tours. Donc une classique des classiques. Sur Ducos, zone industrielle du côté de la baie de Coutillot. Un parcours bien pour un critérium, un parcours de 2 km, complètement plat, donc ça roule très très vite. Tous les ans, on a une forte participation et c'est un critérium qu'ils apprécient et qu'ils commencent à bien connaître. Puis ils aiment bien tous se tirer un peu la bourre, c'est un peu leur petit championnat du monde. Et celui qui remporte le Prix Larocque, en général, c'est quelqu'un qui en a sous la pédale.
Le Grand Prix cycliste Roger Larocque, c'est donc dimanche de 7h30 à 11h30. C'est à Ducos depuis plusieurs années. Le départ et l'arrivée se font à l'angle des rues Isaac Newton et Descartes et les inscriptions sont ouvertes jusqu'à minuit sur inlive.nc.
Et Jean-François, le monde du sport calédonien en deuil après la disparition lundi de Thierry Navarro. Il s'est éteint à l'âge de 64 ans des suites d'une longue maladie.
Ses obsèques ont eu lieu hier en présence de très nombreuses personnes venues lui rendre hommage. Professeur d'éducation physique, Thierry Navarro a ensuite repris l'affaire familiale pour devenir gérant de Brico Center, devenu les Briconautes. Mais le sport a toujours fait partie de sa vie, nous a dit son frère aîné Patrick Navarro. Thierry avait découvert le tennis à l'âge de 7 ans au tennis club du Mont-Coffin.
C'est le leitmotiv qui a conduit, tous ses choix, à part sa vie professionnelle, de quincailler, on va dire. C'est le sport qui dominait avant tout.
La famille Navarro est intimement liée à l'histoire de l'Olympique. Aujourd'hui, est-ce que lui aussi s'est engagé? Est-ce qu'il a participé à la vie, au développement du club?
Oui. Déjà, il n'a pas eu le choix quand on est parti du Mont-Coffin pour aller à l'Olympique en tennis. Et puis, bien plus tard, il a participé à l'évolution du squash puisqu'il il a passé son brevet d'état de squash. Donc, c'était le premier brevet d'état en Nouvelle-Calédonie. Il nous a donné un sacré coup de main à la fois en tant que joueur et moniteur.
Patrick Navarro qui parle de son frère dont il était très proche.
On était très proches, on est les deux seuls garçons de la famille, donc on était extrêmement proches, un peu d'écart avec lui, un peu plus âgé, mais ça ne comptait pas dans nos rapports.
J'imagine que vous avez reçu de nombreux messages d'amitié parce que c'était une personnalité qui était connue, reconnue et très appréciée.
Oui, les messages continuent. Je pense que j'en aurai encore pour quelques jours et... Ça fait beaucoup de bien de recevoir ces messages parce qu'on comprend en fait l'étendue de l'aura qu'il avait auprès des gens. Et ça fait extrêmement plaisir, et notamment à ses filles, à qui je pense beaucoup.
et à toute la famille Navarro et à tous les proches de Thierry Navarro. Radio Rythme Bleu présente ses plus sincères condoléances.
Merci Jean-François Baudin. On passe tout de suite à la météo.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
La météo, c'est avec vous Ismaël.
Et on ouvre ce bulletin avec aucune vigilance particulière. Cette nuit, sur la côte ouest, le ciel est peu nuageux mais parfois voilé. Ailleurs, nuages et périodes étoilées alternent. Quelques averses émaillent l'extrême sud, puis la côte est, sous un ciel parfois chargé. Le vent de sud-est reste établi autour de 15 nœuds, voire 15 à 20 nœuds sur la pointe nord et au Loyauté. Sur la côte ouest, en revanche, il faiblit rapidement avec des brises de nuit qui s'installent localement. On termine avec les températures qui remontent légèrement et affichent de 15 à 23 degrés.
Merci beaucoup Ismaël, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.